nous sommes le 25 octobre 2012. Je vais vous demander de vous présenter.
Donc, je m'appelle François Moutard. Je suis né le 18 mars 1960 à Troyes. Donc, j'ai 52 ans. Et je suis viticulteur à Buxeuil.
Vous êtes né à Troyes?
Oui.
Vous êtes Troyen?
Sans doute. Si je suis né à Troyes, je suis Troyen, ouais.
Et que faisaient vos parents?
Viticulteur. Donc, même mon père avait une voiture. Il était assez moderne. Il était même plus moderne que certains jeunes actuels.
Et vous avez connu vos grands-parents?
Ah non. Moi aussi, mon grand-père maternel. Mais pas mon grand-père paternel.
Et il était où?
Polizy.
Et qu'est-ce qu'il faisait?
Viticulteur. Voilà, gros écartage. Lui, il est né en 1870. Attendez, j'ai raconté une bêtise. 1879. Il avait 21 ans en 1900. Donc, et moi, je suis né en 60, donc il y a un écart. C'est pour ça qu'on remonte vite dans l'histoire.
Et donc, vous avez connu un petit peu de grand-père?
Ah non, pas du tout. Non, non, il est décédé 2 ans avant que je naisse.
D'accord. Donc, c'est le grand-père
maternel? Mon grand-père maternel, il est décédé, j'avais 14 ans, donc j'ai plus connu, forcément. Et j'étais plus en rapport avec.
Il n'y a que 14 ans, à la vigne, ça vous disait quelque chose?
Ah oui, je savais déjà ce que je voulais faire, oui, bien sûr. Mon grand-père maternel était négociant en vin, et je voulais faire le même métier que lui.
Et pour vous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faisait en fait?
Il vendait du champagne. Il a fait du champagne en 1927. Donc il a connu toute l'histoire de l'avant-guerre, et puis après tout le développement de l'après-guerre.
Et c'est quelque chose qu'il vous a raconté?
Ah oui, en partie, pas tout, parce que... J'en savais plus par mon père qui avait appris de lui que par lui. Il était assez discret à ce niveau-là.
Et vous pouvez me raconter un peu?
Ah oui, donc en 1927, il y avait déjà une crise. On est en crise permanente, de toute manière, le mot crise, ça veut rien dire. Donc, on est en mouvement permanent. En 1927, il y avait une crise, le négoce n'achetait pas. Bon, il y avait toutes les histoires d'appellation. Donc, il a fait son vin, et il a fait son champagne, il a commencé à en vendre. Donc, mais le développement est arrivé après la guerre de 1940. Donc, il est passé négociant en 1941 à la création du CIVC. Donc là, il a pris l'option négoce et donc il a développé ses ventes à l'époque sur la France et un petit peu sur les pays étrangers. Avec quelques, j'ai retrouvé dans les archives quelques belles adresses en Suisse et en Belgique.
C'est quelque chose qui a fonctionné très bien dès le départ.
Non, non, attendez, la champagne, pour c'est lui. Un produit récent. Hein. Non, non, ils vendaient 40 millions de bouteilles en 1940, donc les volumes statistiques sont quand même beaucoup plus faibles. Hein. Et puis la technologie était beaucoup plus difficile, hein, ça s'est développé, c'est récent, hein, le produit champagne dans les volumes qu'on voit à l'heure actuelle. Si on regarde les statistiques du champagne, en 1927, il devait se vendre royalement 25 millions de bouteilles. Après, en 1945, 45 millions, 150 millions en 1975, quand je suis rentré en cycle court après la troisième en BEP. Et donc là, on est passé à 310 ou 320, donc le marché a explosé quand même littéralement. Hein. Donc il est plus facile de vendre une bouteille de champagne aujourd'hui sur un marché de 320 millions que sur un marché de 25 millions. Hein. C'est pas les mêmes clients, c'est légèrement différent.
Et votre père a repris donc...
Non, mon père a développé quelque chose à côté, il s'est jamais entendu avec son beau-père. Enfin si, ils s'entendaient. Au niveau familial, ils n'avaient pas de problème, mais au niveau travail, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Mon grand-père est décédé dans sa société en activité réduite.
Et sa société, c'est...
Champagne-François Diligent. Donc, c'est pour ça que nous, la société actuelle s'appelle Moutard Diligent. Mais on a toujours les deux marques commerciales, on exploite les deux marques. Et on est en train de redévelopper la marque François Diligent dans le haut de gamme.
Et donc, vous, en fait, votre père, il avait déjà...
Mon père, quand je suis rentré en 1980, après des hautes études, donc un BEP Vignévin au RICE, en maison familiale, derrière la troisième, et puis mon service militaire, mon père faisait déjà 80 000 bouteilles à l'époque. Ce qui était pas mal en 1980, sur un vignoble de 10 hectares. mais il avait toujours cru en la région. Donc il avait entretenu le potentiel de la société de négoce de mon grand-père, qui était décédé en 1974. Et il avait encore de la terre à planter, suffisant pour refaire 10 hectares en plus. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, avec mes deux sœurs, on a 22 hectares sur des plantations familiales. On a très peu acheté de foncier. Je suppose qu'on a fait le mieux, parce qu'à l'époque, il coûtait pas cher. Mais bon, on voit pas les coûts arriver, hein.
Et pour reprendre votre parcours, mais depuis l'enfance, hein, à partir de quel moment vous êtes allé sur des vignes?
Oh là! Bah attendez, à l'époque, ils avaient pas de sous, ils étaient rustiques. Donc moi, je suis allé aux vignes à 3 ans, me foutaient dans une caisse au pied d'une vigne, hein, pour me garder. Là, je suis allé aux vignes de bonne heure, moi. Hein. Pour ça que j'y vais plus d'ailleurs. Hein. Je sais ce que c'est qu'une vigne, c'est bon. Hein.
Et vos premiers souvenirs?
Oh, mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance. On jouait, hein, l'après-midi sur les tuts de vigne, hein, avec interdiction de jouer dans la voiture, puisqu'on allait quand même aux vignes en voiture, une deux chevaux camionnette. On nous emmenait, comme il n'y avait pas, ma mère travaillait. On a connu des périodes plus difficiles qu'en ce moment. Hein. Donc, ma mère travaillait 10 heures par... Enfin, 10 heures, elle faisait 5 heures. Moi, j'ai connu l'époque où on faisait 10 heures et où on travaillait le samedi. Hein. Dans mon enfance,
Elle travaillait.
elle allait aux vignes. Hein. Dans les périodes de taillage, palissage. Ma mère fait partie de la première génération de femmes à savoir tailler. Avant, les femmes ne taillaient pas. C'était les hommes. Mais après, l'égalité de la femme a fait que les femmes ont taillé. Non. Donc il y a quand même eu une évolution du travail et des mœurs. Hein. Donc, ouais. Moi, les premiers souvenirs, c'est dans les vignes, mais à 7-8 ans, je me souviens, on ne travaillait pas, nous, hein, forcément. Mais on nous gardait, on était au pied de la vigne, on avait des jouets, une poignée de jouets en bois, et puis des brouilletoirs, hein, passer un après-midi là.
Et à un moment donné, vous avez laissé les jouets pour...
Ah oui, bah, 10-12 ans, hein, ça allait vite. Hein. Moi, à 12 ans, je savais tailler. Hein. Mais ça, c'est même incroyable, parce que quand on le dit, les gens n'y croient plus. Mes sœurs qui ont 3 ans d'écart avec moi ont complètement évolué. Elles ne l'ont pas fait. Ça changeait. Bon, puis c'était des filles, mon père avait encore très... Sans être macho du mauvais côté, il avait encore l'ordre des filles et des garçons. Les garçons devaient travailler beaucoup plus tôt. Moi, j'ai un grand-oncle à ma communion à 12 ans. Il m'a dit, on peut boire du vin et on doit travailler. T'as fait ta communion, tu peux boire un verre de vin, pas plus, et tu peux travailler. Ah bon? Ça allait de pair. Et c'est des gens qui avaient énormément travaillé. Bon, ça, c'est peut-être plus une notion actuelle, le travail. Il paraît qu'il n'y en a plus de travail pour tout le monde. Ce qui est... Ça, c'est une idée, hein. On
Et
entend...
alors, le travail de la ligne, c'était dur ou pas? Ces stages-là.
C'était répétitif. Ben moi, on ne faisait pas faire des travaux durs, hein, de toute manière. Hein. On ne faisait pas faire des travaux durs aux enfants. Hein. Non, non, c'était du palissage. Hein. Le taillage, si, après. Le taillage, c'était un petit peu plus dur, mais bon, c'était pas méchant. Avec des bons sécateurs, il n'y a pas de problème. Non, puis on faisait 1 heure ou 2 l'après-midi. Hein. On faisait pas. C'était pas des bourreaux, hein, non plus. Hein. Ils avaient la notion du travail et de l'apprentissage.
Et qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là comme moyen technique, comme matériel?
Ben moi, si ça remonte les années 72, 74, jusqu'en 75, de la sixième à la troisième, ben, comme moyen technique, il n'y avait rien, tout était manuel. Si, mon père avait déjà un enjambeur, mon père a fait partie des premiers, a eu le deuxième enjambeur du département en 1962. Donc, mon père était très moderne pour son époque. Et mon grand-père en vinification a été très moderne aussi à son époque. C'est-à-dire qu'il était le premier à rentrer de la cuve inox, pas inox, de la cuve émail, des années 60 aussi. Le premier bac à glace de l'Aube, c'est lui qui l'a eu. Donc, ouais, bon, il y avait deux générations assez modernes. Mais on a gardé à peu près la même cadence de modernisme.
Vers l'investissement, c'est ça?
Ouais.
Et vers quel âge vous m'aviez dit tout à l'heure, vous saviez ce que vous vouliez faire, mais vers quel âge?
Moi, quand mon grand-père est décédé en 1974, j'avais passé tout mon été avec lui parce qu'il avait un problème cardiaque. Donc ma mère, elle voulait que je sois avec comme le mois d'août, comme il y avait moins d'activité. Et je l'ai suivi énormément. Quand il est décédé, je savais que je voulais faire le même métier que lui. C'est-à-dire que lui, à l'époque, il avait mis en place un système commercial sur la France, où il faisait la foire de Paris, la foire de Lille, la foire de Dijon, Lyon et Bordeaux. Donc, il faut pas oublier que les années 50, pour descendre à Bordeaux, il fallait 2 jours en voiture. Donc, voilà, en 2 jours, on va loin et on revient. Les données sont pas les mêmes.
Vous étiez plus intéressé par la partie commerciale que par la partie...
Oui, la partie vinification, c'est resté de toute manière. Le vignoble m'ennuie un peu, mais bon, on
Pas
peut
trop au
faire.
terroir, pas trop...
Ah, si, 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 ah, si, ce qu'il faut, ben là, c'est la mode en ce moment, le terroir, on nous en gargarise copieusement, donc là, c'est de la mode, ça, c'est du marketing. Hein. On parle du terroir.
Les deux mains dedans.
Ouais, les deux mains dedans, ça, c'est un peu de la rigolade. Les gens qui parlent beaucoup du terroir, ils y connaissent pas souvent quelque chose. Un terroir, ça se découvre et il y a des fois, il faut du temps.
Et alors vous êtes, après la troisième, vous êtes orienté très naturellement, ou vos parents étaient d'accord
Ah
pour que...
oui, bien sûr. Oui, très naturellement, oui, même obligation, parce que sur un cycle court, ma troisième a été tellement fantastique que j'étais obligé de faire un cycle court. Il n'y avait pas trop de problème là-dessus. Poursuivi par les études.
Et les
D'ailleurs,
études.
c'est ce qui manque. Hein. J'aurais dû, mais ça se faisait pas du tout à l'époque. Pour partir à l'étranger, il fallait bien travailler à l'école. J'aurais dû partir une année ou deux en Angleterre, par exemple. En Angleterre ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Enfin, surtout chez les anglophones. De manière à maîtriser bien l'anglais. Parce que ça a été mon plus gros manque. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus, une maîtrise parfaite de l'anglais. Je ne le maîtrise pas, je comprends 90% des conversations. J'arrive à réintervenir, mais j'ai pas une conversation en anglais très pratique. Ça, c'est un point de. J'ai un fils qui a eu à peu près le même parcours que moi au niveau des études, et par contre, là, ça fait 1 an et demi qu'il est à Londres, donc il maîtrise parfaitement l'anglais. Donc, à mon avis, dans le monde actuel et dans la mondialisation, il est sauvé, parce que l'anglais, c'est quand même une langue qui permet de communiquer, même avec des anciens pays européens qui parlaient français. Les Italiens parlent anglais maintenant, les jeunes, les vieux parlent français. Là, je reviens du Portugal, c'est pareil, les jeunes parlent anglais, ils ne parlent plus français. On retrouve la vieille génération qui parle français, mais c'est tout. Donc, il faut s'adapter aux moyens de communication.
Et le cycle court vous a apporté, qu'est-ce qui vous a apporté?
Oh ben, moi, au niveau technique, c'est bon, hein, j'ai appris les bases. Hein. Après, on fouille dans ce qu'on aime, hein, et dans ce qu'on ne supporte pas, bon, on l'élimine. Hein. Ça va tout seul, hein, il n'y a pas de grand problème. Hein. Moi, je suis pas du. Les grands baratins, les grandes technologies et les grandes phrases pour vendre, pour moi, c'est du marketing. Hein. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus forts en marketing qu'en technique. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ou ils font malgré eux, je sais pas, mais bon. C'est pas grave, ça.
Et la technique, qu'est-ce qu'on vous apprenait de vraiment à faire
Toute la
attention?
vinification. Enfin, tout. Hein. Les bases, quoi. Sauf qu'on n'est pas. On n'est pas calé dans les formules chimiques, mais bon, a-t-on besoin d'une formule chimique pour faire du bon vin? Il y a des fois, après, il faut être observateur, il faut avoir une certaine mémoire. L'autodidacte va beaucoup plus vite au nécessaire. Moi, je l'ai toujours, hein, cet esprit autodidacte, d'aller au nécessaire et non à l'indispensable, à passer par des phases qui ne servent pas forcément à grand-chose. On sait, oui, c'est bien pour un chercheur, mais tout le monde n'est pas chercheur. Hein, moi, je suis. On met en place les choses. Hein. Donc. C'est comme le ressenti. Hein. On ressent le commerce ou on ne le ressent pas. C'est pas. On l'a ou on l'a pas, moi je sais dans un pays si ça va tourner ou si ça va pas tourner. Hein. Bon, puis après il y a le choix des personnes, hein, c'est toujours la même histoire.
Et alors après, cycle court.
Oh, après le cycle court, je suis rentré. J'ai fait mon année d'armée comme tout le monde à l'époque. Et puis après, ben, je suis rentré dans la vie active.
Et alors votre année d'armée, c'était fructueux?
Hop, ça a servi strictement à rien. Donc ça, fructueux, oui, ça m'a permis de glander pendant une année. C'est tout. Hein.
Vous
C'était
étiez...
complètement. À Romilly, moi j'étais pistonné. C'était à la belle époque de M. Robert Gallet. Donc tout le monde était pistonné pour aller au plus près ou ce qu'on avait choisi. Ça marchait bien, c'était efficace. Ça allait tout seul, mais ça a servi à rien.
Donc vous
Même pas de bons
aviez...
souvenirs, même pas de copains d'armée. C'était déjà dès le but où chacun pensait à soi et tout le monde pensait à rentrer chez lui. Donc c'était pas très convivial.
Ah, vous aviez toutes vos permes pour revenir
Ah
travailler.
oui, bien sûr. Et puis j'ai retravaillé une fois rentré. Oui, non, ça n'a pas été. J'ai même pas passé mes permis poids lourd. Enfin, j'ai eu rien, négatif total. Pas de bons souvenirs. Enfin, pas de bons souvenirs, j'en ai pas de mauvais déjà. Non, c'était une année inutile, j'aurais mieux fait de partir. Je vois mon fils qui ne font plus l'armée, il est parti 1 an et demi en Angleterre, c'est beaucoup plus valorisant. Mais ça lui a au moins appris ce qu'il avait loupé à l'école. Que là, j'ai rien appris du tout.
Et la transition, vous avez repris après, juste après, ou vous avez eu une période où vous avez...
Ah non, moi je suis rentré dans l'entreprise familiale. Et donc, ouais, je travaillais avec le personnel. Mon père avait déjà 4 salariés à l'époque.
Et vous êtes rentré comme salarié ou alors comme
Je suis rentré
agent?
comme salarié, exactement, ouais. Pour avoir une protection sociale. J'ai dû être 6 mois à aide familiale, qui n'était pas un statut, où il y avait beaucoup de gens qui y étaient. Et puis après, je suis rentré comme salarié. Et puis on a commencé à rentrer dans le système administratif. Mon père m'a mis 70 heures en location pour pouvoir avoir des droits de plantation. On passe plus de temps à lutter contre l'administration française qu'au développement. Hein. Et ça, bon, puis la fête continue, je crois que ça s'aggrave. Donc on a que ce qu'on mérite. Hein. Et on ne s'en sortira pas, ça c'est sûr. On s'enlise. Au niveau des PME, on s'enlise. Donc c'est tout. Hein.
Et alors, vous avez commencé dans les années, au début des années 80.
80, ouais.
C'était un essor.
Mais il y avait de la croissance à l'époque, c'était rigolo. Avec des crises, hein, on avait toujours l'impression d'être en crise, hein, c'était dur. Hein. C'est avec le recul, hein, qu'on s'aperçoit que ça va. Mais il y a toujours eu. Et puis il y avait des plus gros écarts. La Champagne était moins régulée qu'elle est. Donc il y avait des gros écarts dans les prix de vente des raisins, plus importants. Et puis la nature était moins généreuse, donc on avait beaucoup plus d'écarts entre des gros volumes et des petits volumes. Donc ce qui créait des différences. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus nivelé.
Ah, ça n'était pas par rapport aux années antérieures, aux années 40,
Ouais.
50.
Ah ben si, c'était déjà mieux. Hein. On avait déjà augmenté la productivité. Hein. Les années 80, il y avait une très bonne productivité. Hein. Presque aussi bonne qu'à l'heure, même aussi bonne qu'à l'heure actuelle. Hein. Donc, non, non, les années 80, il y avait une belle, belle productivité. On était au bout de tout un tas d'essais. Hein. Les sélections massales, les clonales. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas inventé grand-chose. Hein. De 1980 à aujourd'hui, on n'a pas inventé beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On parle beaucoup de blabla, mais au niveau de technique propre, proprement dit, même en porte-greffe, on a quoi? Un ou deux porte-greffes supplémentaires en 30 ans de temps. On n'a pas inventé ni la poudre ni l'eau chaude hein, là, ces 30 dernières années. On a vécu sur un acquis.
Ce qui a été inventé, c'est quoi? C'est la flambée du prix de la parcelle?
Hein. Oui, ça c'est arrivé à partir de après 90.
Deux.
La flambée du prix de la parcelle. Mais ça, c'est un autre phénomène, ça. C'est un phénomène économique, hein, et de restriction. Hein. Là, on est sur l'offre et la demande. Hein.
Un peu dans les années 81, non?
Non, c'était trop. On pouvait s'installer, à la limite, il y avait beaucoup plus d'opportunités. À l'heure actuelle, ça devient difficile pour les jeunes. Hein.
Et qu'est-ce qui est dur?
Bah, trouver des terrains, il n'y a plus. Hein. Et tout le monde y tient. Donc, il y a une concentration sur les grands groupes, il y a quelques difficultés. Bon, ça va se réguler, hein, n'importe comment, on n'est pas la première vignoble à se réguler comme ça, mais il y a des problèmes importants.
Et vous avez connu le village étant enfant.
Ouais.
Est-ce qu'il a évolué aussi?
Ah bah oui, hein.
Alors à quoi il ressemblait quand vous
C'était un tas
étiez...
de. Bah, il y avait des friches. C'était pas des friches industrielles, mais il y avait beaucoup de maisons éboulées. Hein. Mon père était le spécialiste, on en a racheté plusieurs dans ces maisons. Rasé et reconstruit. Donc il y avait. Oui. C'était comme ça, quoi.
C'était pareil partout ou ici?
Ah non, c'était pareil partout. Hein. Il y a encore quelques villages qui peuvent être restés un peu pareils. Hein. Le fait de faire du vin, de recevoir des clients, a fait nettoyer énormément les villages. Hein. Et les villages les plus dynamiques sont les villages où il y a le plus de manipulants, hein, de toute manière.
C'est-à-dire?
Mais ceux qui font leur champagne et qui le vendent. Hein.
Et dans le coin?
Ouais. Les gens dans les villages où il y a quelques villages qu'on peut citer, où il n'y a pas de manipulants, le village est beaucoup plus sale et moins entretenu. Hein. Le fait de faire venir du client fait qu'on a un besoin de propreté et d'entretien. À Buxeuil, on a eu l'eau courante en 1967. Donc moi, je suis né avant l'eau courante. Mais mon père avait déjà mis une pompe dans son puits. Donc mon grand-père, on ne devait pas en avoir beaucoup. Dans le village, il y en avait 4 ou 5. Mais ils avaient déjà des pompes, ils avaient déjà l'eau sur l'évier, mais en individuel. Donc on a vu apparaître l'eau. Moi je me souviens des travaux d'eau. C'était quand même des gros chantiers à l'époque, ils creusaient la rue, tout était. Donc pour un enfant, du matériel c'est gros. Hein. On a des yeux différents. Et donc, moi, je me souviens des travaux de la mise de l'eau. Puis après, il y a eu l'eau, il y a eu bah, le téléphone, c'est pareil. Mon grand-père avait le téléphone. Il devait y avoir mon père. La cabine, c'était le 1. Mon grand-père, c'était le 2. Mon père, c'était le 3. Après, ça a développé vite, après 70. Mais avant 70, il y a eu des époques comme ça. Il y a eu avant 70, de 70 à 90. Puis il y a l'après 90, et en ce moment on est encore sur un gros mouvement, mais différent, complètement différent.
Alors, vous, enfants, il y avait des agriculteurs ou pas?
Il restait encore des vaches laitières, et il y a encore deux agriculteurs qui ont complètement disparu. Hein. Ils se sont repartis sur la vigne, et puis les céréales se sont concentrées sur des gens d'autres villages. Puis nous, on est un tout petit village, avec un tout petit finage, donc. Le village de Buxeuil, on est un des plus petits villages du secteur. On n'a que 400 hectares de finage. Donc, si on enlève 150 hectares de potentiel vigne, on doit être à 100 hectares de vigne. Au jour d'aujourd'hui, il y a un potentiel de 200. Au 19e siècle, il y avait 200 hectares. Mais bon, on les reverra peut-être jamais parce que on n'a pas l'esprit de croissance. Moi, j'ai connu les gens. Mon père faisait partie des gens de l'après-guerre qui avaient envie de développer. À l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui a envie de développer. Tout le monde a envie de se barrer en vacances. Donc, c'est tout, hein.
Mais les municipalités.
Ah, ouais. Les municipalités, on voit, hein, qui les dirige. Hein. Ça, c'est. Dans les petits villages, c'est meumeux, hein, c'est gratiné. Hein. Il y a des belles municipalités. Vous voyez la route principale avec un stop dessus, ça vous donne l'ambiance de la municipalité. Bon, ben, c'est tout, hein. Les gens. La démocratie, c'est bien, mais ça a quelques travers. Hein. Plus on est bête, plus on arrive à être élu. Donc on tourne en rond. Là, je vois pas le développement, je ne le vois plus, moi. Je vois pas un développement que j'ai connu les années 80. Hein. Les années 80, même au niveau syndical, le syndicat des vignerons, les années 80, c'était encore des dirigeants qui avaient connu l'après-guerre, qui avaient envie de se battre, envie de développer, envie d'y aller, envie de vendre. Mon père savait pas faire, mais moi, il m'a laissé partir. À 21 ans, je suis parti à Vinexpo tout seul, avec un budget d'un salon international. Je n'étais pas du tout armé pour le faire, mais il m'a laissé faire. Il m'a dit, t'inquiète pas, ce sera une formation. Et ça a été vrai, c'était une formation, mais on arrivait comme des bleus sur des marchés internationaux. Donc c'est tout. Moi, à 21 ans, j'ai déjà fait mon premier salon. Je suis parti tout seul, la fleur au fusil. Hein. Donc.
Et vous n'avez pas trop croisé de voisins?
Oh bon, on n'était pas nombreux à cette époque-là à l'international. Hein. Vinexpo en 81. J'ai fait. Non, Vinexpo, la première fois. Oui, 81, la première fois. Non, non, on n'était pas nombreux. Hein. Je l'ai fait avec le syndicat général des vignerons, c'était des stands collectifs, c'était mal fait, c'était impossible de réussir, mais ça fait rien, ça donnait de l'expérience. L'expérience, ça se transmet pas, ça s'acquiert. Bon, c'est tout, hein. C'est tout. Et là, mon fils, je l'emmène, on va à Shanghai. Je vais avec lui, je ne l'ai pas laissé partir tout seul. Mais bon, peut-être plus. C'est pas plus prudent, c'est différent. C'est différent. Non, moi, mon père était moderne, il m'a laissé partir avec un budget pas illimité, mais pas la carte bancaire parce que ça n'existait pas en 81, le carnet de chèque de la société, et puis voilà. Et un stand sur Vinexpo Bordeaux.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Et il
Qu'est-ce
faut le
qu'on y
faire.
fait?
Ce qu'on y fait, on présente ses produits, mais un jour sur deux, ça va pas. Un salon, c'était bon, c'était des stands syndicaux, c'était rigolo. Mais bon. Ça avance à rien. Mais il faut le faire. Ça avance, ça permet d'avancer plus. C'était l'époque du Telex. J'ai connu l'avant-fax. Hein. Le fax a été une grande révolution. Hein. Le fax, nous, on l'a acheté en 86. Quand on parle de ça, et maintenant on est sur Internet, ça va à des vitesses. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une période folle quand même. Hein.
Et vous avez
Avec des
vu
moyens techniques énormes.
la clientèle changer ou pas du
Ah
tout?
ben nous, on l'a complètement changé. Hein.
C'était quoi au départ?
Mes parents faisaient 80 000 bouteilles, 20 000 bouteilles sur des grossistes qui étaient des pseudo-professionnels, cavistes et compagnie, et le reste c'était sur du particulier. Mon grand-père faisait tout en particulier des tailles sur la France, et nous on est passé au jour d'aujourd'hui, on est en train de reprendre de la croissance. Là on est à 820 000 bouteilles par an, grand export, 55 pays différents. Hein. Donc on est sur rien du tout de ce qu'on connaissait. Hein. On n'a plus rien à voir avec ce que faisaient mes parents et mon grand-père. Hein. Mais plus rien du tout, du tout. Hein. On est complètement sur une autre clientèle. Hein.
Et une clientèle quand même qui vient?
Ah oui. Là, mon neveu est parti à Paris chercher des Chinois, alors. Oui. Les gens se déplacent. Parce que même pour un Chinois riche, il 100 euros d'avion, c'est de la rigolade. Ils passent plus de temps à rentrer leur. Il faut faire des invitations et avoir le droit de rentrer en France que de venir. Hein. Ça pour venir, ils aiment bien la France quand même. Ils mangent bien, ils boivent bien, ils sont contents. Ils commandent peu. C'est tout. C'est comme ça.
Et vous avez eu envie à un moment donné de vous engager dans des instances, dans des...
Je l'ai fait jeune, ouais. Et plus j'avance dans le temps, moins j'en ai envie.
C'était quoi?
Ah, j'ai fait partie du groupe des jeunes vignerons, j'ai beaucoup participé, ouais. Une époque, je montais aux réunions une fois par mois à Épernay et tout. Non, non, je me suis énormément déplacé. J'étais dans des instances agricoles départementales, mais j'y suis pas resté trop longtemps, ça bouge pas assez vite pour moi.
Qu'est-ce que vous en attendiez?
À l'époque, bon, c'était une formation continue, ça me permettait de savoir ce qui se passait exactement. J'en ai pas tiré de piston, parce que ça sert à ça en général. Les délégués s'affairent et compagnie, puisqu'on est quand même sur des structures qui sont archaïques. On n'est pas fait pour développer des entreprises. Donc moi j'ai un esprit entrepreneur, c'est tout. Hein. Donc quand j'ai commencé à développer mon entreprise un petit peu plus violemment que tout le monde, je suis sorti de ces choses-là. Parce qu'on n'est pas, faut pas oublier qu'on est. Mon père faisait 80 000 bouteilles, on en fait 800 000, donc on a quand même une croissance assez conséquente. Donc un vigneron normal dans sa vie passe de 1 hectare à. Un jeune, il s'installe, il prend 1 hectare, il hérite de ses parents, il se retrouve avec 5, 6, 7. Bon, on n'en a pas plus en surface de vigne, puisque c'est très bloqué, mais le développement commercial a quand même été assez. Et je pense qu'on va en reconnaître un hein, dans quelques années. Le temps que ça se stabilise et qu'on se réorganise, on va re-avoir, mais nous, au niveau familial et de l'entreprise, un développement. Puisque là, on s'est redéveloppé, on a remonté. Comme on est bloqué en Champagne et qu'on ne peut plus bouger, on a redéveloppé une société dans l'Yonne. On vient de racheter du vignoble dans le Tonnerrois, puis là on vient de racheter du Chablis. Donc on a une offre économique importante. On a monté une petite distillerie, donc on a des possibilités de croissance importantes. Mais ça, c'est ce qu'on recherche. Et c'est
Croissance
pas.
horizontale.
Bah oui, puisqu'on n'a pas pu faire autrement. En Champagne, c'est fini. La valeur du raisin va encore se consolider, à mon avis. Tant qu'on ne plante pas massivement, on maintient une valeur du raisin assez soutenue. Hein, donc, et après, pour aller vendre assez cher, il faut quand même se donner les moyens.
C'est justement ça,
Et créer une image. Hein, donc ça met du temps. Hein.
c'est un peu en discussion, ça,
Ben moi, je ne sais pas où c'en est.
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Comme c'est fait, que du mal. C'est une merde totale, mais on verra ce que ça fera. Hein. C'est le vigneron qui va se prendre. Moi, au niveau personnel, notre société familiale, on est sorti de. On maîtrise la distribution, on est 80% négociant. Donc, moi, si le raisin y baisse, c'est pas une catastrophe. Hein. On l'achètera moins cher. Mais je pense qu'au niveau viticole, c'est une connerie. Mais bon, c'est tout. Mon père avait défendu la loi de 1927. Bon, ça n'a pas réussi parce que je me rends compte que le vigneron n'a pas du tout la culture historique. Mon père avait encore. Ça fait 5 ans qu'il est mort. On est seulement en train d'y expliquer. Au vigneron la base de l'histoire et son histoire. Il a fallu qu'il y ait 100 ans la révolution des vignerons pour que le vigneron actuel connaisse son histoire. Alors on n'est pas avancé. Hein. On va trop vite, nous, on est décalé.
Ce 1911, vous, quand est-ce que vous avez appris ça?
Nous, ça fait partie de la culture familiale. Moi, à 10, 11 ans, 12 ans, 14 ans, mon père a jamais parlé du passé, il a toujours parlé de l'avenir. Mais on parlait de l'histoire, donc ça faisait partie de l'histoire, on le savait. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui avait été assez important dans les choses et tout. Donc, il y a des écrits à l'heure actuelle qui sont ressortis avec comment tout ce qu'il écrivait au niveau du syndicat avant 1911. Mais moi, je le savais, c'est tout. Mais bon, chacun a sa richesse personnelle dans son histoire. Nous, au niveau familial, on en parle. Moi, mon père me l'avait dit, on en avait parlé, on connaissait l'histoire du vignoble. Bon, les autres, je m'aperçois que finalement, la masse des vignerons savent même pas comment ils ont eu leur appellation. Ça, c'est leur problème, hein. J'ai vu même des hommes politiques ici dans la région savoir, nous, Jules Guyot, à Gier-sur-Seine, on le savait. On savait qui était Jules Guyot, on connaît ses pensées. Jules Guyot n'aimait pas sa région natale, il l'aimait pas. Parce qu'il y avait une bourgeoisie, il était né avant la Révolution française. Ou après, je sais plus. Plus ses dates. Enfin bref, il n'aimait pas la bourgeoisie locale parce que il sortait d'un milieu moins aisé et il n'a jamais défendu sa région. On y a fait une salle à Gier, c'est magnifique. Mais c'est tout. Bon, ben, moi je savais que Jules Guyot était de Gier-sur-Seine. Le maire de Gier l'a appris il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Les incultes restent des incultes. Et moi j'ai décidé, je suis pas un missionnaire. Hein, ce que je le pense et puis c'est tout. Hein. Moi, j'avance à la vitesse de ce que je peux. Je suis un autodidacte. Donc, moi, je m'auto-satisfais dans mon truc. Là, je sais qu'au mois au niveau professionnel, au mois de janvier, je pars. Au mois de janvier, au mois de décembre, je vais aller voir mes clients en Russie. Moi, je fais le tour du monde. Je m'amuse comme un petit fou à aller voir mes clients partout où ils sont. Donc, voilà, ça, c'est à mon plaisir. Après, autour de moi, les gens, je ne peux pas leur expliquer ce que je crois. Un jour, j'ai eu quelqu'un ici, une journaliste locale, qui m'expliquait comment ça se passait en Chine. Je revenais de Chine. Elle n'y a jamais été. Elle entendait, elle avait vu l'ours, qui a vu l'ours et qui n'a pas eu peur. Moi non plus. Hein. Donc, moi, ces histoires-là, je l'ai même pas. J'avais commencé à la contredire, puis après, j'ai arrêté. J'ai dit, si elle sait, moi, je ne sais pas. Donc, moi, je vais voir. Puis c'est tout, puis je me fais une idée moi-même. Là, je suis allé en Australie pour faire distribuer. J'ai un diplôme australien pour le. Il faut passer un diplôme pour vendre du vin en Australie. La rigueur avec l'alcool, ils n'ont pas les mêmes comportements que nous. Hein. C'est des anglo-saxons, donc les horaires de consommation sont plus réduites. Tout est un peu plus. Bon, bah, j'ai le diplôme. Heureusement qu'on a le droit de copier, parce que mon anglais m'aurait pas permis de. Quoique j'ai compris ce qu'il nous disait, le gars. On passait une journée à entendre un gars, un ancien repenti de l'alcoolisme. Donc, ça, c'est marrant. Donc, ça, c'est de l'expérience. Mais ça, que vous voulez raconter ça aux gens dans la rue. Même aux gens, même aux hommes politiques, même aux syndicalistes. Moi, ça, c'est ma vie, c'est mon plaisir. Je développe mon entreprise, j'essaye d'emmener mes enfants et mes neveux dans la même histoire. Le reste, c'est même pas la peine. Hein. Pas essayer de. Moi, je suis pas un missionnaire. Je suis pas du tout missionnaire. Ça, c'est sûr. Je pense même qu'en fin de carrière, je réinvestirai à l'étranger, parce qu'en France, c'est impossible de développer quelque chose.
Et à l'étranger, c'est.
Je sais pas, il y a des fois c'est aussi compliqué. Parce qu'on a emmené nos complications à travers le monde. Mais ça peut être une satisfaction.
Et vous n'avez jamais été tenté par la
Si.
Californie,
Ah, la
la Chine?
Californie, non. Oui, peut-être, on sait pas, je sais pas où. Je pense que l'hémisphère sud est plus rigolo pour des gens comme nous, parce qu'autrement, on vendange tout à la même époque. Et le terroir, il sort en vendange. Donc si on veut surveiller les vendanges, faut le faire en février, c'est plus rigolo. Mais bon, ça c'est une idée qui est un peu fantasme. C'est pas réaliste. Mais c'est une idée qui me traîne. Parce qu'en France, on va se ramasser de toute manière. Le vignoble français qui était le plus grand est passé numéro 2. Hein. Donc, on est repris la tête. Hein, mais on est appelé à se faire déboulonner. Moi, j'ai vu apparaître les vins du Nouveau Monde hein, dans ma clientèle. C'est récent. Hein, 190. Hein. Moi, j'ai mon importateur hollandais en 1990. Il faisait 80% de vin français, 20% de vin étranger. Dans les 20%, il y en avait 10 qui venaient d'Espagne et d'Italie. À l'heure actuelle, ils font plus que 20% de vin européen et 80% du Nouveau Monde. La bascule, on l'a vu arriver. Mais quand vous reveniez d'un gars comme ça, à qui vous parlez de vos problèmes et de ce que vous voyez arriver? Ben moi, de mon entourage, personne. Si j'en en parle au député du coin, il fait Ah oui, mais. Ah ben oui, il avait l'autre fois, il avait dit à mon père, vous vivez mieux que vos grands-parents. Eh couillon, il savait pas comment ils vivaient mes grands-parents. C'est pas une ambition, ça, c'est de la merde. Donc on est entouré que de gens comme ça, donc moi j'ai arrêté de lutter. Je pense ce que je pense, j'ai vu ce que j'ai vu, je dis tiens, là, on va se prendre un bon coup dans les mirettes, et on se prend le coup. En général, on voit le coup arriver. Par contre, je dis qu'à l'heure actuelle, on est sur un développement à l'international énorme. C'est exponentiel, c'est du jamais vu. Si on prend le soin de se déplacer, c'est du jamais vu. Ce que mes parents et mes grands-parents ont fait, on a une croissance qui peut être. Après, il faut la maîtriser, hein. Mais c'est relativement illimité. Pour une chose simple, un billet d'avion. Moi, je me suis fait moquer de moi par un journaliste parisien. Je lui ai dit que depuis qu'on prenait l'avion pas cher, ça pouvait permettre de vendre. Ah, ben, il m'a dit oui, avec la roue, on a inventé le commerce. Mais avec l'avion, au jour d'aujourd'hui, on va à New York. Une petite structure, vous avez un potentiel 100 ou 200 000 bouteilles. Et là, je voyais un collègue dans le village qui le fait. Vous allez vendre vos 15-20 000 bouteilles aux États-Unis très facilement au jour d'aujourd'hui. Sauf qu'il faut être gonflé, il faut oser le faire. C'est tout, hein. Donc, mais c'est extraordinaire, parce que si vous faites ça dans tous les points de la Terre, il y a du développement. Ça, c'est le coup de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Hein. C'est pas pour autant que c'est au premier coup qu'on y va, hein, qu'on réussit. Hein. Donc, il faut y aller beaucoup de fois. C'est énormément de travail, et ça recommence, il faut travailler. Et c'est pas toujours plaisant de se déplacer, parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être toujours... On attend toujours dans des aéroports. J'ai des périodes où ça me fait ça. Mais voilà, donc c'est ça.
Et quand ça s'est monté, ça, vous pouvez me raconter, c'est en 80, vous n'alliez pas à Shanghai, à...
En 80, on allait nulle part. Si, j'allais à Vinexpo Hong Kong. J'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, ce ressentiment de dire mes parents ont développé sur le marché français, et nous, il faut qu'on parte à l'étranger, autrement on sera coincé. Je sais pas qui m'a fait avoir cette idée-là. Je l'ai depuis l'âge de 20 ans. Et elle se confirme encore plus.
Alors, comment ça s'est fait,
Ça s'est fait progressivement. Donc, dans les années 85, d'année en année, on a refait des salons, on a commencé à bouger, on a pris notre voiture, on était voir en Allemagne, on était voir un peu partout. Après, on a commencé à exporter. On a développé l'exportation depuis 86, 7, 8. Donc, on a démarré. Puis après 90, on a bien explosé. Et puis après, on a toujours travaillé dans le même sens. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de structurer, de rayonner sur 55 pays différents.
Et à chaque fois, vous passez par des...
Bon, on passe par des structures d'importation, hein, souvent. N'importe comment, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Faut payer les taxes dans les États où on arrive. Hein. Le plus gros problème, il est là. C'est pas la barrière de la langue, c'est la barrière douanière. Le plus gros problème. Qui n'est pas un problème, hein, ça se maîtrise. Hein, il suffit de passer par les bonnes personnes. Hein. Là, j'ai fait 90 000 euros au Kazakhstan. C'est pas banal. Donc ça nécessite un travail de connaissance. C'est des marchés nouveaux, mais ça s'appelle la chance. Comme je suis bien connu à New York, j'ai des amis new-yorkais qui ont donné mon adresse et ça est parti comme ça. Hein. Des gens que j'ai pris soin de faire déguster pendant des années et des années. Du temps passé, il y en a énormément. Hein. Et ça, faut savoir le faire. C'est tout.
Hein. Vous êtes moins à Bucseuil ?
Ouais, vu que ça, j'y suis pas souvent, hein, finalement. J'y suis quoi, ouais, un tiers de mon temps, deux tiers. Ouais, je suis encore un tiers ou deux. Je suis un tiers du temps parti. Mais ça, c'est nécessaire. Et en plus, j'ai des structures, c'est-à-dire que je suis pas tout seul. Hein, c'est impossible de le faire tout seul. Et il y a du développement, même sur les marchés proches, hein, comme l'Angleterre. Hein. Moi, j'ai mon fils là, qui va revenir d'Angleterre, qui va commencer à travailler, mais je le renverrai 2 à 3 jours par mois en Angleterre faire des tournées en clientèle. Aller dire bonjour aux clients. Mais ça, c'est vieux comme les rues, c'est des conseils, des vieux conseils qu'on a dans les vieux livres. Moi, j'ai lu énormément de vieux livres. Quand il y a des reparutions, j'ai lu les livres de Rachaptal, qui était le ministre de l'Agriculture de Napoléon. Et il disait déjà à l'époque qu'il fallait aller vendre et se déplacer pour aller vendre son vin. Donc c'est quand même des vieilles histoires. Hein. Et tout. Et c'est pour ça qu'on est négociant malgré nous. Hein. Notre métier, nous, à la limite, ce serait de faire de la vigne et de vendre notre vin. On ne nous a pas laissé faire de la vigne à la surface qu'on a besoin. Bon, on fait autre chose, hein, puisqu'il faut développer des sociétés pour être rentable. Si vous payez un billet d'avion, il faut quand même avoir un volume à vendre. Hein. On ne peut pas partir avec rien. Mais ça, c'est un problème de rentabilité. Enfin, un problème d'entreprise.
Ah, il a fallu acquérir de l'expérience en comptabilité, en finance aussi.
Oh là, pouf, ça se fait tout seul. Non. Ouais, on a quelques idées, non, quelques ratios, ben nous. Mais ça, il y a des fois, c'est des points où on est les moins bien structurés. Mais il y a des fois, on s'organise. Non, oui. Non, puis on se fait aider. Hein. Il y a quand même des gens compétents dans tous les métiers, donc il faut aller les chercher, puis c'est tout.
Parce que là, oui. Vous avez combien de sociétés ?
Oh là ! On en a trois. Trois principales. Une en Champagne, une distillerie et une en Bourgogne. Mais bon, on a des GFA, on a des structures différentes. Ça aussi, c'est très compliqué. C'est très... Ouais, bon, je sais pas, on lutte. On a l'impression que le monde du travail lutte contre le monde de je sais pas qui. Il y a le monde de la finance, le monde du travail, et puis le monde des gens qui veulent récupérer. Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais bon. Ça occupe, hein, c'est pas grave. c'est pas grave. Et tous ces mondes-là vivent dans leur petite bulle. Donc, ce qui fait que, bah, à la limite, les pauvres, on a encore pour un moment à rester pauvres. Hein. Faut pas être tombé du mauvais côté de la barrière. Hein. C'est même irrécupérable. De toute manière. Ah, on va voir les sons du chien. Bah, dans tous les reportages viticoles, il est de bon temps d'avoir un chien. Vinivino, ils ont toujours un chien. Ouais, non, je dis, il faut. Quand on est tombé du mauvais côté, c'est pas facile de s'en remonter. Hein. L'ascenseur social à Chirac, il est foiré. Hein. Ils ont coupé les câbles, hein, faut pas. Ça n'existe plus. Même ce que j'ai connu, moi, j'ai connu le fils du premier salarié de mon père s'est installé. Il est viticulteur indépendant à Buxeuil, il est propriétaire de vignes. Il avait acheté des vignes à l'époque où ça. C'était déjà difficile à acquérir, hein. Il a énormément travaillé. C'est un gars qui a travaillé pendant 14 ou 15 heures par jour, pendant des trimestres entiers, pendant la période de la taille et tout. Il travaillait énormément. Mais au jour d'aujourd'hui, il est son propre patron, propriétaire de ses vignes. Donc c'est tout. Il a réussi. À sa manière, il a réussi.
Et c'est personne.
Donc Buxeuil, Jacques Issiefer. Donc l'ascenseur social a fonctionné. Bon, avec quelques. Il s'est forcé, hein. Il a fait des efforts énormes, mais de son père, statut de salarié agricole, lui, il est quand même passé. Bon, il n'est pas patron d'une. Il embauche quelques personnes en saisonnier, mais il est quand même passé de l'autre côté de la barrière, qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit possible de faire. Il a 7 ou 8 ans d'écart entre son frère. Il y avait une fenêtre de tir d'une dizaine d'années où il a rentré dedans, il a monté, il a progressé, il a réussi à louer des terres pour planter. On avait cette croissance de plantation à l'époque, à l'heure actuelle on ne l'a plus. Donc il a réussi à prendre tous les maillons, à acheter un petit bout de terrain, à faire ce qu'il avait à faire. Son frère qui a 7-8 ans de moins, il s'est trouvé bloqué, il n'a jamais pu démarrer du tout. Il avait envie de le faire, je l'ai eu comme salarié, il est reparti ailleurs, on est resté très bien ensemble. Il n'a jamais réussi à reprendre des locations, on n'était plus sur la même croissance. Il y a des fois, à peu de choses près, on rentre dans un système et. Je vois ce qu'on a fait dans Lyon. J'ai racheté un vignoble à l'époque le plus bas du Tonnerrois en 2004. Au jour d'aujourd'hui, ça y est, les grands groupes, c'est pas les groupes financiers qu'on connaît en Champagne, mais des groupes de Beaune qui font des 5, 10, 15, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires arrivent. Bon, c'est pas énorme comme société, c'est pas les multinationales champenoises. Mais ces gens-là sont encore en train d'arriver. Moi, ça y est, je suis couvert. Je l'ai fait juste. J'avais dit à mes sœurs, il y a une fenêtre de tir, personne n'en veut en ce moment, faut y aller. Parce que c'est au moment que personne n'en veut qu'on fait les plus belles affaires. Hein. Moi, j'ai volé personne, à la limite, je l'ai acheté au prix du marché, personne n'en voulait, les gens étaient contents de me vendre. Au jour d'aujourd'hui, ça y est, il y a des gens qui ont des prétentions, ils arrivent dans le secteur, ils commencent à chercher. Donc ça y est, ça change le profil. On n'est plus dans la même. On n'est plus dans le même profil.
Et vous êtes aussi. Directeur des ressources humaines, non ? J'imagine qu'il doit y avoir du monde qui gravite.
Bah, on a une vingtaine de salariés, là. Non, c'est pas trop moi qui fais ça, ça me plaît pas trop, ça, c'est un métier de merde, ça. Pas fait pour moi, moi je suis un peu l'artiste, j'aime bien faire le vin, organiser, machin, faire du commerce, mais il faut les ressources humaines, en ce moment, c'est... Oh là là, j'ai connu des périodes plus faciles aussi, hein. Les années 80, les gens étaient beaucoup moins compliqués qu'à l'heure actuelle. Oh là là, ils ont tous les défauts du monde, ils ont fait, je sais pas ce qui s'est passé... Il y a eu un problème d'éducation, ils ont tous des égos qui sont surdimensionnés, ils sont bêtes comme leurs pattes et avec des égos surdimensionnés. Ça, c'est terrible. Hein. Ça, c'est gratiné. Mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, on les laisse. Moi, ça me gêne pas du tout. Hein. Mais bon, c'est qu'une observation. Je pense que mon père avait des salariés moins compétents. Moi, j'ai connu la période des gens où personne ne voulait venir travailler en viticulture. Hein. Donc, moi, mon père a fait rentrer un Portugais en direct du Portugal, hein, en 72. Hein. Plus personne ne voulait travailler, donc on a connu la période du plein emploi. À l'heure actuelle, on a une belle image, mais plus personne ne vient non plus, ils préfèrent rester au chômage. Bon, puis après, on a besoin d'une technologie, À l'heure actuelle, on a quand même du personnel qui sont assez qualifiés. On rentre quand même des diplômes assez hauts. Ou les diplômes ont baissé, je pense que les diplômes ont baissé aussi. Mais on rentre des gens qualifiés. Le dernier embauché, c'est quand même un œnologue avec un diplôme d'œnologie. Donc c'est quand même assez conséquent.
Pour freiner le
Non,
tempérament d'artiste?
Oh non, pas du tout. Non, 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 parce que je suis un artiste modéré, moi. Non, 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 pas du tout. Non, non. Non, non, parce qu'on a besoin d'avoir des gens quand même assez compétents pour faire pour tout faire le travail. Il est quand même assez compliqué le travail. Ben moi, je le trouve pas compliqué, mais je me rends compte que les gens le trouvent compliqué. Les gens sont faits pour travailler à la chaîne, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ils s'en
Avant.
plaignent tous, mais ils sont faits tous pour travailler à la chaîne, hein.
Et avant, vous faisiez, vous, la partie
Ah
œnologique?
oui, bien sûr. Non, non, moi j'ai toujours eu un conseil, et puis je garde un conseil à œnologique, hein. Ouais, non, non. C'est nécessaire. Moi je suis bon à rien. On fait chef d'orchestre, c'est tout. On a un comptable, on a un comptable et des conseillers juridiques, un œnologue, conseil. On a des tas de gens qui viennent nous aider, autrement on est incapable. Le métier est vachement large, hein. Donc après il y a les points forts et ce qu'on aime. Puis après, il y a les points faibles. Et dans les points faibles, il faut se faire aider par des gens compétents. Après, il arrive le juridique. Après, il arrive des tas de choses. Plus on grossit, plus on a des problèmes à solutionner. Donc voilà.
Parce que de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait en 80?
Ben, c'est parce que la société a changé de dimension, hein. Quand on est petit, on n'a pas besoin. Ben, mon père avait déjà un conseiller. Ben, mon père avait un comptable, puisqu'en 74, il est passé au réel agricole. Donc, il avait un comptable et il avait un œnologue. On a augmenté en ayant une relation presse, qui est un nouveau métier qu'on a vu apparaître les années 95 ou 16. Donc, non, non, chaque métier, tous nos besoins sont solutionnés par des métiers. On ne peut pas intégrer tous les métiers qu'on a besoin.
Votre père, il avait fait une société.
Ah oui. Oui, mon père était très. Il n'était pas commerçant du tout, mais il était très bon au niveau agricole, viticole. Au niveau vin, il était assez en avance. En niveau juridique, il est très très bon. Nous, on est des bleus par rapport à lui. Puis dans les trois, mes deux sœurs et moi, il n'y en a pas un qui est à sa hauteur. Il lisait un texte, il était pareil, autodidacte, mais lui, il avait subi la guerre, donc il était en plein dans la période de guerre, donc assez mouvementé. Sorti de guerre, il n'a pas repris ses études, il a rentré travailler. Mais il lisait un texte, il comprenait tout de suite. Il connaissait le point faible et il avait vu la faille dans le truc. Hein. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Nous, on ne tient pas de lui, mais bon, c'est pas grave. Il y en a peut-être un qui tiendra un jour de lui. Il avait une capacité de lecture assez. Il connaissait l'histoire de France, il avait tout appris par la lecture. Mais ça, c'est important. Hein. Faut lire et retenir. Puis des fois, on sélectionne ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, j'aimais bien la géographie, je m'en sers. Il y a des fois, on est obligé de regarder quand même sur une carte, parce qu'on a des trucs un peu exotiques. Puis ça a changé, hein. La découpe de l'Afrique, elle est plus que ce qu'on a appris. Tout en étant jeune, la découpe de l'URSS, c'est pareil. La bonne vieille URSS, elle a changé. Bon, puis après, ben, aux États-Unis, quand on va aux États-Unis, c'est pareil, il faut regarder les pays. Le Brésil, on nous dit le Brésil en France. Faut pas oublier que le Brésil, c'est sept États différents. Donc ça, on l'apprend sur le terrain. On nous l'a jamais dit. On dit le Brésil, c'est pas vrai. Il y a sept États différents avec des interconnexions qui sont différentes pour nous pour faire homologuer une étiquette, parce qu'il faut avoir homologué les étiquettes au ministère de l'Agriculture de chaque pays. C'est un sport administratif. Hein. Donc c'est tout, ça occupe bien. C'est pour ça que. Mais moi, ça, je l'avais dit, on a de plus en plus de monde dans les bureaux. Le commerce et les bureaux vont représenter à une période. Là, en ce moment, il n'y a encore pas, mais je pense qu'on va faire moitié-moitié un beau matin. Les jeunes, quand ils vont rentrer, qu'on va les remettre sur la route pour bien vendre, on sera à moitié-moitié. La productivité vigne et cave augmente de plus en plus, et on a de plus en plus de bureaux, de papier à faire pour aller faire du commerce lointain. Mais ça, c'est un ressenti que j'ai depuis longtemps, mais on est dedans, hein. Ça, c'est sûr.
Et le ressenti, quand vous avez commencé, vous doutiez qu'il y aurait une croissance.
Non. Moi, je la voyais, on voyait. Moi, je me souviens de conversations les années 82-3 avec mon père. On allait livrer des clients à l'époque et on discutait dans la voiture énormément. On pensait doubler, moi, je pensais, les années 80, on pensait des pays européens. C'est-à-dire avoir une distribution, et surtout nordique, hein. On ne pensait pas à l'Espagne, le Portugal encore moins. On pensait ni l'Italie, on pensait à l'Allemagne. Mon père était très, très axé sur l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. C'était, on cherchait des distributeurs dans tous ces pays-là. Donc on les a trouvés et on s'est retrouvés complètement débordés par rapport. L'objectif, nous, c'est, l'objectif, on avait une espèce de ratio qui vaut ce qui vaut et qui est très, très solide. On avait dit moitié vigne, moitié négoce, et moitié France, moitié export. On a tout explosé, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. Mais ce schéma-là est très bon, hein. Économiquement, c'est un schéma excellent. Mais on n'y est plus du tout, puisqu'on est à 70% export, on est à 80% négoce, donc on a complètement tout explosé. Tout en le maîtrisant quand on y était sur ce ratio. Et c'est un ratio qui est super bon. Il faudrait racheter de la vigne, mais au prix qu'elle vaut maintenant, on ne peut plus. Pas possible. C'est pas rentable. Et comme on n'est pas parti, on ne fait pas partie des fortunes, on vit de notre travail et non l'inverse. Donc on ne peut pas investir dans des trucs pas rentables. On est encore entrepreneur, on n'est pas fortuné. C'est l'entreprise qui fait la fortune, donc c'est tout. S'ils nous la mettent sur l'impôt sur la grande fortune, on rigole. Ça va venir.
Et là, vous avez plusieurs enfants? Vous avez un
Oui,
fils?
moi j'ai plusieurs enfants, j'ai quatre enfants.
Et vous leur avez mis le pied?
Oui, il y en a qui auront le virus, ouais. Oui, ils auront le virus. Mais bon, on verra ce qu'ils vont pouvoir faire. Le développement, tout se bloque à l'heure actuelle. Il y a des blocages de. Autant au niveau commercial, il y aura des développements, autant au niveau production, il y a des blocages. Hein. Mais bon, on cherche après, il faut trouver sa voie.
Et ils sont avec le secteur ou...
Il y en a un qui sait faire, ouais, l'autre un peu moins. En ce moment, il est en Bourgogne, il a fini son BTS, il faut qu'il parte, il veut partir aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est pas l'endroit le plus simple. En Angleterre, il y serait déjà. Aux États-Unis, il faut qu'il ait, pour pouvoir y être 6 mois, faut qu'il passe un petit examen. Donc ça va l'occuper. Il partira guère avant janvier, temps de faire les papiers. Celui qui est en Angleterre, bah lui, il a fait toute sa. Au niveau technique, il s'y connaît. Il a. Donc, il a. Il maîtrise. Là, il est pas sommelier, il est barman. Au niveau barman, c'est là qu'on apprend le mieux l'anglais. Mais il était 6 mois à ramer, parce que ça, c'est pareil. En France, dans les écoles de viticulture, l'anglais n'est pas assez fort fait. Mais bon, c'est tout. Hein, est-ce qu'on le veut? C'est pas sûr. Puis tout le monde n'est pas fait pour faire un. Héritier du père, je pense qu'on va sur une concentration, donc nos fonctionnaires le savent déjà. Donc c'est tout. Hein. Quand on fait un BEP vigne et vin, ça suffit. Un bac pro, ça suffit. Moi, il a fait un bac pro, il l'a loupé. Ça suffit pour faire de la vigne. Mais il faut parler l'anglais pour vendre son vin. Si on veut être indépendant. Donc c'est tout. Bon, lui, il sera indépendant. Ça y est, maintenant il peut se déplacer. Il est venu avec des Hongrois, il communiquait en anglais avec ses copains hongrois. Donc c'est l'avantage, hein. C'est la langue de communication. Ouais. Moi je dis que l'anglais c'est le latin du Moyen Âge, donc c'est tout. On l'a ou on l'a pas. Et plus on l'attrape jeune, plus c'est facile. Et là il avait envie, mais la barre est haute, de refaire un an en Allemagne pour apprendre l'allemand. Parce que c'est toujours un superbe marché l'allemand. Le marché allemand est un marché assez intéressant. Donc, comme il a 20 ans, comme il n'y a pas l'armée, comme on va essayer, je vais essayer d'y faire faire, mais en douceur. Il va peut-être passer 6 mois à la maison, ça va, avant de repartir. Sauter de l'Angleterre à l'Allemagne, ça peut être violent. Mais comme il parle l'anglais, il peut, déjà, il est sauvé. Plus facile que quand il est arrivé en Angleterre qu'avec son français, hein, parce que là, il dit qu'il a ramé pendant 6 mois. Mais bon, il n'est pas revenu, donc c'est bon. Et puis j'ai une fille qui fait de la déco, puis j'en ai un qui veut être maçon. Eh ben il sera maçon. Mais tout le monde ne s'appelle pas Bouygues. Hein. Donc c'est tout, c'est marrant la réflexion des gens. C'est assez marrant. Donc là il est basique, il repart en autodidacte lui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une solution comme une autre. Le tout c'est de s'amuser dans la vie. Et ça a l'air. Il me surprend même parce qu'il est passé de la banquette à la zapette à maçon, c'est quand même un gros. Et à 15 ans, il n'a pas sorti de troisième à 15 ans en ayant tout loupé. Et là, il redémarre un CAP, ça a l'air de lui plaire. Donc la vie est devant lui, hein, il suffit de. Et c'est lui qui part le plus tôt le matin. C'est marrant. Donc c'est tout, c'est pas un problème. Le tout, c'est d'être bien dans sa peau. Le reste,
je peux.
Sans problème.